Président Gaingob, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous espérez atteindre comme objectif maintenant que vous serez le président de la SADC?
SADC is not beginning today.
La SADC n'est pas née aujourd'hui, toute politique est une continuation et parmi les éléments clés que nous avons au sein de la SADC, il y a le processus d'intégration. Mais alors qu'on signe des textes, des accords, on ne les met pas toujours en application. Donc mon objectif est de mener des consultations pour assurer cette mise en application. Ça a toujours été mon approche en termes de gouvernance.
Donc cela veut dire que le traité de libre-échange n'est pas mort de sa petite mort, parce que les observateurs avaient l'air de penser qu'après les effets d'annonce, il n'y avait pas grand-chose derrière qui se passe.
Bien sûr, les populations, les milieux d'affaires aimeraient voir se réaliser cette zone de libre-échange. Mais pour échanger quoi? L'un des problèmes, c'est qu'on produit les mêmes marchandises. Regardez la Namibie et le Botswana, des diamants, de la viande. Donc l'idée, c'est d'apporter de la valeur ajoutée à nos matières premières. En Afrique, on ne produit que des produits bruts. C'est pour ça qu'on ne crée pas d'emplois, qu'on ne s'industrialise pas.
Qu'est-ce que vous attendez du président Kabila, maintenant qu'il a décidé de ne pas se présenter à l'élection? Est-ce qu'il y a d'autres attentes de la part de la SADC?
Je ne veux pas parler spécifiquement de la RDC. Je plaide pour la construction d'une bonne gouvernance, pour la mise en place de processus, de systèmes, d'institutions. Ne pas tout baser sur des individus, sur les présidents, mais sur les institutions comme les tribunaux, etc. La RDC doit avoir cela, et pas que le président Kabila, nous tous, nous devons avoir cela. Oui, le président Kabila a décidé, assez justement, je crois, de ne pas se présenter. L'idée d'une limitation du nombre de mandats, j'y crois fortement. Deux mandats de 5 ans, c'est assez. Et le fait qu'il ne se présente pas est un soulagement pour nous tous. Maintenant, pour moi, ce n'est pas à la France, à la Namibie, de décider ce qui doit se passer en RDC. La SADC peut aider, mais ça doit être au peuple congolais de décider.
Mais justement, l'opposition critique à la fois, vous parlez des institutions, la commission électorale, la cour constitutionnelle, dont elle dit qu'il serait entre les mains du président Kabila et de ses partisans. L'ONU est aussi très inquiète pour la réduction de l'espace politique, la société civile, parce que justement il y a des candidats qui sont exclus, et les gens se tournent vers la SADC. Est-ce que vous êtes prêt à assumer ce rôle?
Yes, as community.
Oui, en tant que communauté ou même qu'êtres humains qui doivent coexister, on s'entraide et on se donne des conseils. Si la crise en RDC n'est pas réglée, on a déjà des réfugiés qui arrivent ici. On ne peut pas dire que cela ne nous concerne pas. Cela nous affecte et cela pourrait même affecter jusqu'à la France. Et c'est pourquoi, en tant qu'organisation sous-régionale, nous intervenons pour dire, collègues de la région, nous avons des règles à propos des élections. Il faut qu'elles soient inclusives, il faut qu'elles soient transparentes et que les leaders de l'opposition aient leur mot à dire. Parce que s'il y a des doutes, des secrets, du favoritisme à la commission électorale, même moi, si je perdais, vraiment, je dirais que tout ça, c'est à cause de la tricherie. Tout ça, c'est très important, il faut l'admettre. Bien sûr, on ne peut pas les forcer, mais c'est clair, nous allons parler de l'importance d'élections inclusives.
Est-ce que vous pensez que les élections au Zimbabwe étaient transparentes et justes?
Les observateurs, y compris ceux de la SADC, disent que les élections ont été libres. Et si on compare aux précédentes élections, au cours desquelles il y avait de la violence, ils disent qu'elle était pacifique. Mais ce qui est contesté maintenant, ce sont les résultats. Ça se passe au niveau de la justice. Je ne peux pas commenter.
Quelles sont les attentes de la SADC par rapport à l'armée, qui a quand même plus ou moins enlevé Robert Mugabe du pouvoir?
Bon, contrairement au passé, si quelqu'un arrive au pouvoir par les armes ou de manière non démocratique, c'est nous, la SADC, l'Union africaine, qui allons l'ostraciser. Dans ce cas-là, nous n'avons pas estimé au bout du compte qu'il y avait eu un coup d'État. Peut-être que l'armée a joué un rôle en mettant la pression, mais Emmerson Mnangagwa a été réinstallé dans ses fonctions et est devenu président dans le respect de la Constitution, des lois et du Parlement. Pour l'armée, je prendrai l'exemple de la Namibie. Je demande à l'armée de simplement rester dans les casernes et pas dans la rue.
Les Comores vont devenir un État membre de la SADC durant ce sommet. Est-ce que vous êtes inquiet à la suite du référendum?
Le président des Comores aura l'occasion de s'exprimer, donc on pourra évaluer comment il voit les choses. Et ceux qui parmi nous ont connu des transitions ou des élections pacifiques, nous pourrons lui dire « Mon frère, peut-être que tu devrais faire les choses comme ça et pas comme ça. Pas pour faire plaisir à l'Occident, mais pour satisfaire nos populations. Et il faut trouver une manière d'aller de l'avant. vivant, parce que la bonne gouvernance, une gouvernance efficace, c'est ce en quoi croit la SADC, et on fera des progrès de cette manière.
Justement, vous parlez de la bonne gouvernance qui est promue par la SADC, mais est-ce que ce modèle, ce n'est pas en tout cas dans la plupart des pays pour l'instant, une alternance au sein des partis au pouvoir? Est-ce que ce n'est pas justement une limite de ce modèle?
Je vois qu'il y a toujours un certain positionnement par rapport à l'Afrique. Il y a des choses qu'on demande à l'Afrique qu'on n'exige pas ailleurs. J'ai étudié aux États-Unis. Il n'y a que deux partis là-bas avec la même philosophie. Comment se fait-il qu'aux États-Unis, il n'y ait pas de communistes ou de socialistes? Nous, on s'est battus et ça nous a pris du temps. J'étais un jeune garçon quand j'ai commencé à me battre, 27 ans d'exil à me battre. Maintenant, ça fait juste 3 ans que je suis au pouvoir. Je suis différent de Sam Nujoma ou de Poamba. Et si la population continue de voter pour nous, pourquoi est-ce que ça devrait être un problème pour d'autres?
Quel est l'avenir en fait des mouvements de libération quand on sait qu'il y a la génération qui vient, n'a plus le souvenir ou n'aura bientôt plus le souvenir du combat que vous avez mené?
C'est le problème. Vous, vous parlez de mouvement de libération. Nous, on ne parle pas de mouvement de libération. On est le parti SWAPO. On est sorti de cette typologie de parti de libération il y a longtemps. Maintenant, on est un parti de gouvernement.
Il y a l'une des questions depuis longtemps, c'est la réforme de la répartition des terres. Pourquoi est-ce que c'est si difficile?
La question des terres devient compliquée parce que des gens qui ont perdu politiquement veulent en faire un sujet émotionnel. Si on avait développé ce pays, si on l'avait industrialisé, que la plupart des gens avaient un emploi, est-ce que les gens continueraient à réclamer des terres? Non, tout ça c'est causé par la pauvreté, le chômage, et la Namibie est un pays aride. Ce n'est pas facile d'être fermier dans ce pays. Mais les gens ont été élevés dans l'idée que si on a des terres, on devient riche. C'est faux, c'est utilisé pour tromper les gens. Mais je crois dans le dialogue, car quand la diplomatie échoue, c'est là que la guerre commence. Certaines choses pourtant sont devenues impossibles. Même quand on a acheté des fermes et qu'on les a distribuées, ce n'était pas bien fait. On a racheté des fermes très productives et on les a données à des gens qui n'avaient pas les compétences ou la formation. Mon objectif, c'est que les Namibiens vivent ensemble, mais il faut qu'ils se respectent les uns et les autres et qu'ils sachent qu'une société inégalitaire ne peut pas survivre très longtemps.
L'Ombudsman est en train de faire une enquête à l'heure actuelle justement sur la manière dont, en tout cas la politique qui était quand même de votre parti a été faite en termes de redistribution de terres. Et les retours qu'il a pour l'instant, enfin en tout cas de la population, c'est qu'il y a une forme de discrimination. Que ce n'est pas toujours les personnes les plus pauvres qui obtiennent les terres, mais que c'est parfois des gens qui sont justement liés à votre parti. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Bon, l'Ombudsman est là pour faire son travail et pour montrer sa pertinence, il doit bien dire quelque chose. Mais ce que nous lui dirons, c'est qu'il y a des critères pour l'attribution de ces terres. Ceux qui se sont battus, qui se sont sacrifiés, doivent recevoir une terre. Et aussi ceux qui n'en ont pas. Donc, ce sont surtout les Noirs qui doivent en recevoir. Maintenant, le processus de sélection peut être critiqué par n'importe qui. Nous lirons le rapport de l'Ombudsman, et s'il a des preuves, nous sommes une démocratie, nous acceptons les défaites.
Vous savez, il va y avoir un procès en France dans l'affaire Areva Uramin, ou en tout cas on s'achemine vers là, où il y a eu un certain nombre de sources judiciaires qui ont cité votre nom dans ce dossier. Quel est votre lien avec cette affaire Uramin Areva?
D'abord, j'ai été Premier ministre dans ce pays, puis je suis parti. C'est pour ça que les gens disent que j'étais à la rue. Et j'ai effectué de la consultance. Des gens sont venus d'Afrique du Sud et m'ont parlé de ce problème d'uramine. Ils n'arrivaient pas à avoir le permis d'exploitation, je les ai juste aidés là-dessus. Pourquoi donner un permis de prospection? Ces gens avaient déjà dépensé de l'argent, environ 19 millions. C'est juste en cela que je les ai aidés. Ils ont eu leur permis, ils m'ont payé, je l'ai déclaré, et ça se limite à ça. Après, quand j'étais à Washington, la question d'Areva s'est posée. Areva a acheté les propriétés d'uramine sur le marché boursier et je n'étais même pas au pays. Comment est-ce que quelqu'un pourrait influencer cet achat sur le marché boursier? Pour tout dire, j'étais même en colère quand j'ai appris que cette propriété, qu'une terre namibienne avait été achetée et que le gouvernement n'avait rien touché là-dessus parce que, justement, ça s'est passé sur les marchés boursiers. Donc, je n'ai jamais eu aucun rôle, je n'ai jamais aidé Areva ou été payé par elle, ça c'est faux.
Est-ce que vous saviez que ce site minier était très difficile à exploiter ou même que Uramin proposait un prix qui était trop élevé?
Je n'ai rien à voir avec tout ça. Si une compagnie française a surévalué le prix, en quoi cela me concerne-t-il? Allez en France les chercher là-bas. Posez la question aux Français.
Donc si la justice française vous appelle pour répondre?
Je vous le dis, ça n'a rien à voir avec moi. Les papiers sont là. J'ai déclaré les sommes reçues à notre Parlement. J'étais juste un consultant pour Uramin. J'ai bouclé ce dossier. Je ne suis pas un expert qui aurait pu dire que c'était surévalué ou non. C'est une affaire française. Mais je ne vais jamais témoigner devant une juridiction étrangère. On a nos propres juridictions ici. C'est pour ça que j'étais opposé à la Cour pénale internationale. Parce que je dis toujours qu'il faut qu'on ait nos propres institutions. Donc si j'ai commis un crime, ça se réglera devant nos tribunaux et devant aucun autre tribunal.
Qu'est-ce que finalement la Namibie a gagné dans cet accord entre Areva et Uramin, à part éventuellement de la mauvaise publicité? Parce qu'en fait, justement, il y a eu une exemption de taxes.
Il y a eu une réunion, j'étais ministre du Commerce à ce moment-là, au cours de laquelle la dame, qui était la présidente d'Areva, a parlé au président Poamba. Par chance, il existe un compte-rendu détaillé de cette réunion. Il a posé la question: « Pourquoi vous ne pouvez pas nous aider ici comme vous le faites en Afrique du Sud ou ailleurs ?» Elle a répondu que ce serait un long processus, un processus coûteux, et qu'Areva ne pourrait pas payer de sa poche à moins qu'on lui donne le statut de zone franche industrielle. Et le président Poamba, les minutes de cette réunion existent, a dit « Aidons-la. Si nous pouvons changer nos lois, changeons-les, aidons-les et donnons-leur ce statut. » Quand c'est arrivé chez moi, ministre du Commerce, qui pouvait donner ce statut, j'ai dit qu'on n'avait pas besoin de changer la loi, qu'il y en avait déjà une. Il y a alors eu une réunion d'un comité finance, commerce et mines. D'autres étaient aussi autour de la table. Alors ils ont dit, si Areva veut 5 ans pour faire une étude, pour qu'il puisse nous montrer le processus qui sera si coûteux, etc., donnons-les leur. C'est la décision du gouvernement, pas la mienne.
Vous avez des relations privilégiée avec la Corée du Nord. Il y a une coopération militaire, il y a aussi la construction, et on le voit, la construction d'immeubles, y compris à Windhoek. Est-ce que vous n'avez pas peur, au vu des sanctions notamment, qu'il y a contre la Corée du Nord?
Si vous m'aviez posé la question il y a 6 mois, je vous aurais dit « Oui, vous avez raison. J'ai travaillé depuis une petite maison pendant 3 ans parce qu'on rénovait la présidence avec les Nord-Coréens qui ont construit ce bâtiment. Et l'opprobre est tombé à tort pour quelque chose qui s'était passé avant l'application de sanctions par l'ONU. Mais maintenant, l'ennemi numéro 1 de la Corée du Nord y va et lui serre la main. Et c'est moi qui suis sanctionné? Le président Trump y est allé. Pourquoi vous ne lui posez pas la question? Pendant la guerre, les Nord-Coréens nous soutenaient quand l'Occident soutenait l'Afrique du Sud. J'ai même rencontré le vieux président Kim Il-sung. C'était un homme brillant. Et quand le président Trump parle de celui-là, il dit « c'est un homme très bien ». Pourquoi est-ce qu'on devrait être contrôlé par vous, les Occidentaux, même quand il s'agit de nos relations diplomatiques?
Monsieur le Président, merci.
Merci beaucoup.